Sans perdre de temps, j'appelle tout de suite Anne-Marie Thierry, qui va évoquer les débuts du laboratoire de Jacques Levinsky, puisque ce fut, je crois, la première à y travailler. À toi, Anne-Marie.
Bonjour à tout le monde. C'est une grande tristesse un an après, mais aussi une grande joie de retrouver une partie de la famille Glow. Voilà, donc moi, je ne vais pas parler, je vais vous passer un PowerPoint que j'avais réalisé avec la connivence d'Isabelle Glowinski, sa femme, et de plusieurs personnes du laboratoire sur l'évolution de Jacques Glowinski. Voilà, donc ce PowerPoint est un petit peu atypique. Théoriquement, il y a une musique que Glow aimait bien, mais je crois qu'on ne va pas l'avoir jusqu'au bout parce qu'il y a un petit ennui technique. Mais voilà, soyez... Et ce PowerPoint, on l'avait réalisé au moment du départ en retraite de Jacques. Et il y avait eu un colloque qui avait réuni tous les glos, je dirais, toutes les personnes qui étaient passées par le labo et tous ceux qui avaient une collaboration avec le labo, et c'était dans l'amphi Marguerite de Navarre. Donc si on peut avoir le PowerPoint, c'est moi qui le passe.
Thank you.
D'entre vous se sont retrouvés un petit peu plus jeunes. Voilà. Non, mais c'est une arête. Je ne sais plus quoi faire pour l'arrêter. Que beaucoup d'entre vous se sont retrouvés un petit peu plus jeunes. Ce que je voulais dire, c'est que tout le labo, tous les gens qui sont passés au labo étaient tellement tristes, mais se sont retrouvés quand Glo a disparu. On s'est tous téléphoné, c'était la vraie famille. Et puis Glo, c'était un grand scientifique. C'était un grand humaniste. Et comme dirait Marie-Hélène, c'était un mensch. Merci.
Jean-Antoine Giraud, s'il te plaît.
Monsieur l'administrateur, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, c'est à nouveau un moment très, très émouvant et on va essayer, comme l'a fait Anne-Marie, mais avec moi il y aura beaucoup moins de musique malheureusement, de faire revivre certains des moments marquants du passage dans le laboratoire de Jacques Glowinski. C'était quelques petites touches. Alors, les organisateurs nous ont demandé de ne pas parler de science, donc je ne parlerai pas de science sauf pour l'évoquer, parce qu'évidemment, c'était le contexte dans lequel tout ça, toute cette aventure s'est déroulée. Alors, évidemment, pour chacun d'entre nous, il y a eu un moment où on a rencontré Jacques Glowinski, et puis ça a, pour beaucoup d'entre nous, ça a vraiment changé le reste de notre vie. Alors, donc, en ce qui me concerne, voilà le souvenir que j'en ai. Ça s'est passé dans le bureau de Jacques Glowinski. Malheureusement, j'ai pas de photos, mais ceux qui l'ont connu doivent se souvenir un petit peu de cette gigantesque table noire qui occupait pratiquement la totalité de la pièce, qui servait de bureau à Jacques, et puis ça servait aussi de lieu de travail avec lui, et puis ça servait aussi de lieu de réunion du laboratoire. Alors il m'avait reçu d'une façon tellement cordiale, avec un tel enthousiasme pour la recherche, que vraiment j'étais convaincu de travailler dans son laboratoire. Et alors la photo que je vous montre là, si je peux avoir un pointeur, voilà. Celle-ci ne correspond pas, elle est un peu plus récente que l'époque où les événements sont censés se passer. Celle-ci est probablement un tout petit peu plus ancienne, mais il faut trouver quelque part entre les deux. Alors, à l'époque, il y avait déjà de nombreux thèmes de recherche qui étaient développés dans le laboratoire de Jacques Glowinski. Celui qui était peut-être le plus proche de ses intérêts concernait, donc ses intérêts portaient beaucoup sur les systèmes intégrés, sur le fonctionnement normal et pathologique de ces systèmes autour des ganglions de la base. Donc il y avait des expériences qui étaient faites donc chez le chat pour essayer de comprendre comment étaient libérés les neurotransmetteurs. Donc vous voyez ici une photo que certaines, vous verrez que certaines des photos sont similaires à celles que vous avez eues il y a quelques minutes, évidemment. Jacques Glowinski ne faisait plus d'expérience depuis très longtemps, mais pour le besoin de la photo, il avait donné un coup de main à ses collaborateurs pour une expérience chez le chat anesthésié. Donc toutes ces expériences de libération avaient été faites par différentes personnes, mais deux qui ont particulièrement marqué l'étude de la dopamine sont André Cherami, André Nulon, et puis simultanément, il y avait le développement par l'équipe de Marie-Jo Besson de l'étude de la libération d'un autre neurotransmetteur appelé le GABA. Donc c'est dans cette équipe, avec Marie-Jo Besson et avec les différents collaborateurs, que j'ai eu la chance de travailler. Donc on a développé des différentes méthodes d'approche. Et je voudrais souligner que déjà à l'époque, il y avait de nombreux chercheurs internationaux qui venaient d'Uruguay, de Grèce, d'Italie par exemple. Et c'était déjà vraiment quelque chose de tout à fait notable. La science s'est encore plus internationalisée ultérieurement, mais c'était vraiment un aspect très agréable. Voilà. Alors, j'ai cherché quelques petites images, quelques touches impressionnistes, entre guillemets, qui pouvaient évoquer cette époque. La première qui m'est venue à l'esprit, c'est l'atmosphère enfumée qui pouvait parfois régner dans le bureau de Jacques Glowinski lorsque ça servait de lieu de réunion pour le laboratoire, de discussion. Bon, ça, c'est des images, je dirais, d'un autre siècle. La deuxième image qui m'est venue à l'esprit, c'est le papier jaune de brouillon que Glow, tout le monde l'appelait Glow, évidemment, Glow aimait beaucoup utiliser. Alors, de temps en temps, ça terminait à la poubelle, et puis de temps en temps, ça terminait sur la machine à écrire à cette époque-là. Et la personne qui, encore à cette époque, utilisait encore la machine à écrire, c'est quelqu'un qui a joué un rôle absolument clé dans l'histoire du laboratoire, gérant tous les aspects à la fois financiers, administratifs et humains, c'est Marie-Hélène Lévy. Il y avait effectivement, à l'époque, on faisait des figures d'articles avec le système Letracet, et puis il y avait un dessinateur, un photographe, etc., avant que ce soit soumis. C'était bien avant l'apparition des ordinateurs personnels, pas tout à fait complètement quand même, parce qu'il y avait déjà un ordinateur Apple II, le premier ordinateur personnel, qui était dans le laboratoire, personne n'utilisait. Alors j'avais eu la chance de faire un petit peu d'informatique avant, donc j'avais pu faire des programmes qui ont permis l'étude sur le déoxyglucose. Et puis, comme ça a déjà été dit, il y avait aussi, en plus des choses sérieuses, il y avait des moments festifs, et puis grâce aux dames de la laverie. Après, je fais une parenthèse, je suis parti quelques années aux États-Unis, et à mon retour, raconter une anecdote qui s'est passée dans ce café qui a beaucoup évolué depuis. Il était moins neuf que ça déjà à l'époque. Jacques Glowinski travaillait tous les samedis au laboratoire et c'était le cas de plusieurs d'entre nous, notamment également Mathieu Lévi-Strauss, un autre jeune chef d'équipe dans son laboratoire. Et nous allions déjeuner avec lui. Et donc, ça devait être en 90, je pense, quelque chose comme ça. Et on s'était moqué un petit peu de lui. Enfin, pas moqué, mais on l'avait un petit peu challengé en disant « Mais c'est vraiment horrible, le Collège de France. C'est vraiment dans un état catastrophique, quand même », on disait en rigolant. Mais on serait aux États-Unis, ça serait quand même drôlement rénové. Déjà, ça ne serait pas comme ça. On avait essayé. Et alors, lui, il réagissait pas vraiment, mais il était complètement d'accord, évidemment. Et je pense qu'il en avait déjà beaucoup dans la tête qui nous a pas dit à ce moment-là, parce que ça peut être servi d'un tout petit aiguillon parmi de milliers d'autres à ce qui est arrivé ensuite, donc avec André Michel, la levée de tous les fonds qui étaient nécessaires, et puis ce dont on va parler, je pense, tout à l'heure en grand, avec beaucoup de détails. Donc à nouveau, rappeler que Jacques Glowinski pouvait être quelqu'un qui pouvait piquer des colères, qui pouvait pas être facile, mais qui avait quand même un sens, une cordialité, un sens d'une chaleur humaine absolument fantastique qu'on appréciait vraiment tous. Et il y avait des moments festifs où ça vraiment faisait surface. Et j'ai essayé de réfléchir quels sont les éléments qui m'ont le plus marqué, peut-être. La première chose, c'est que il avait vraiment une vue non aristocratique du monde. Il ne pensait pas qu'il y avait des gens qui, soit par leur origine, par ce qu'ils avaient fait comme études, etc., étaient au-dessus des autres. Il pensait que tout le monde devait travailler et bien réussir par ce qu'il faisait vraiment. La deuxième chose, ça a déjà été évoqué, il avait un sens du collectif, de la collectivité, et un respect des autres, des plus humbles aux plus connus, aux plus grands, qui étaient, il les traitait de la même manière. Et puis, un esprit d'entreprise qui s'appliquait aussi bien à la science que ce qu'il a pu faire en dehors. Et c'est grâce à ça qu'il a eu autant de réussite. Pas de parole, des actes. Et puis, enfin, j'ai convivialité et un sens de l'humour qui était vraiment, rendait les choses extrêmement agréables pour travailler avec lui. Voilà, je voudrais... une fois de plus, dire un très, 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 très grand merci à Jacques et un merci, Glo.
Ça va être difficile de parler après ce qu'a montré Anne-Marie et ce qu'a montré Jean-Antoine, parce que tout a déjà été dit, donc je vais le dire d'une autre façon en prenant ces laboratoires. En paraphrasant Pérec et en disant « je me souviens ». Et donc, je me souviens de sa générosité, bien évidemment. Donc, comme l'a dit Jean-Antoine déjà, il y a un premier jour. Et le premier jour, je suis arrivé, jeune médecin, pas encore neurologue. J'ai dit « je voudrais faire de la recherche ». Il m'a dit « oui, mais qu'est-ce que vous avez fait comme étude scientifique ?» Je l'ai regardé, prétentieux comme un médecin, un jeune médecin peut l'être. Et il m'a dit, bon, bah, vous allez aller apprendre les neurosciences et puis je vais vous prendre quand même. Je me souviens de quelques coups de téléphone et quelques coups de gueule parce que Évidemment, on allait présenter nos travaux dans des réunions ou à d'autres collègues, et certains nous critiquaient de façon vertement, certains trouvaient même que, oh, quand on était chez Glowacki, c'était trop facile. Ils entendaient parler de lui après, et comme l'a dit Jean-Antoine, ses coups de gueule étaient aussi légendaires. Et puis, à peine revenu de postdoc avec André Sobel, qui est ici, il m'a juste offert la possibilité de créer mon équipe. J'avais 30 ans, enfin, peu de gens avec une telle générosité qui offre des locaux et la possibilité de développer son propre sujet. Je me souviens de sa rigueur scientifique, c'était quelque chose d'imparable. Jean-Antoine vient de citer la phrase d'Axelrod, « Stop talking, just do it ». Et les feuilles jaunes, parce que pour ma part, la thèse a été 7 fois réécrite. À l'époque, la machine à écrire effectivement existait, mais moi, je l'ai tapée moi-même, cette thèse, 7 fois. Et les articles, à peu près autant, jusqu'à ce que ce soit bien. C'est comme une pierre, il fallait polir, il fallait arriver à ce que ce soit bien. La curiosité, bien évidemment, on a parlé de la dopamine, et c'est son sujet. J'ai parlé à l'Académie des sciences de tout le travail qui avait été fait sur les cellules gliales, un domaine qu'il a inauguré grâce à Lamprochian, et dans lequel on s'est engouffré à plusieurs, avec Joël Prémont, avec Christian Giaume. Et il a toujours eu une curiosité insatiable pour des techniques qu'il n'utilisait pas et qu'il ne maîtrisait pas, ce qui ne s'appelait pas encore la protéomique ou la génomique qu'on a développée dans l'équipe, ou des protéines nouvelles comme PEA15. Et puis, je me souviens du jour où je lui ai dit que j'ai rejoigné le cabinet de Roger Gérard Schwarzenberg, il m'a dit « Mais t'es fou !» Je me souviens d'un laboratoire qui doit être beau, c'est ce qu'on essaye de faire. Le code couleur gris et jaune du laboratoire, le fait que tout devait être impeccable, le fait qu'il y avait ce grand bureau magnifique avec des chaises d'IMS et tout devait être design. Il fallait que le labo soit rangé et chaque année, on arrêtait tout. Et quand on dit tout, on arrêtait tout. Il n'y avait pas de manip et il fallait tout ranger pour que les choses soient clean. Et sinon, il rentrait dans le bureau et on entendait parler de lui. Le labo, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps rappeler aujourd'hui, parce que c'est parfois difficile avec les systèmes individualistes qu'on a aujourd'hui. Le labo, c'était une communauté, et il fallait être là à 5 heures pour prendre le thé, pour faire partie de cette communauté. Et autour de cette table qu'a évoquée Jean-Antoine, on se réunissait pour se partager un budget, pour mutualiser les choses. On mettait tout ensemble, et ça, c'était l'esprit dans lequel on travaillait, sinon ça ne méritait pas de s'appeler un laboratoire. Et puis, je pense que Philippe Lazard reviendra tout à l'heure sur les fameux 3 points. Ce n'est pas sans une certaine émotion. Et je dirais 3 choses. C'est ce qu'il avait fait dans sa leçon inaugurale au Collège de France, où il y avait le réseau exécutif, le réseau modulateur et le réseau glial. Et puis, bien évidemment, il y avait l'homme. On a parlé des samedis matins, des longues discussions qui pouvaient porter sur tout, la politique, l'architecture. Ma femme était architecte et ça le passionnait bien évidemment. Et je me souviendrai toujours de l'accueil à Ménerbe d'Isabelle et de Jacques et du fait qu'il avait tout arrêté pour nous montrer avec ma compagne Ménerbe. Et puis voilà, c'était un homme heureux, c'était un homme généreux et surtout heureux de partager. Et le message qu'il nous laisse à tous, c'est que sans le partage, rien n'existe. Ça, c'est les membres de l'équipe Plasticité Gliale qui l'a permis que je réunisse, que ce soit des gens de France ou de multiples horizons, Japon, Brésil, etc. Merci, Jacques.